VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean Révion, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, a dénoncé aujourd'hui ce qu'il a appelé le silence assourdissant de l'Iran, alors que le président Donald Trump garde, selon lui, la porte ouverte au dialogue malgré les tensions qui font craindre une confrontation dans le Golfe. Le président iranien Hassan Rouhani a accusé les États-Unis de mentir quant à leur volonté de négocier et les affaires étrangères iraniennes ont estimé que Washington avait coupé de façon permanente la voie de la diplomatie après les nouvelles sanctions visant cette fois le guide suprême iranien Ali Khamenei. Le président américain a imposé ces sanctions lundi, mais en même temps il a laissé la porte ouverte à de véritables négociations, a dit M. Bolton à l'occasion d'une rencontre tripartite à Jérusalem avec ses homologues russes et israéliens et en présence du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Retour sur les sanctions américaines imposées hier avec Irénée Hermanoumbou.
Le président américain Donald Trump a signé un décret empêchant, selon lui, le guide suprême iranien, son équipe et d'autres qui lui sont étroitement liés d'avoir accès à des ressources financières essentielles. Huit responsables des gardiens de la révolution sont aussi sanctionnés 4 jours après la destruction de drones américains par un missile iranien dans la région du Golfe. Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, promet de geler des milliards de dollars d'actifs iraniens supplémentaires sans autre précision. Avant l'annonce de ces mesures, l'Iran avait dit qu'elle n'aurait aucun résultat. Les États-Unis ont rétabli depuis août 2018 une série de sanctions économiques contre Téhéran. Et de nouvelles frictions sont à prévoir avec l'annonce par l'Iran de l'enrichissement de son uranium qui va dépasser à partir du 27 juin la limite prévue par l'accord de Vienne.
Et Boris Johnson, favori pour succéder à Theresa May à la tête du Parti conservateur et du Royaume-Uni, a une nouvelle fois promis lundi que la Grande-Bretagne quitterait l'Union européenne au plus tard le 31 octobre avec ou sans accord. « Je fais la promesse que nous sortirons de l'Union européenne à Halloween », a déclaré l'ancien ministre des Affaires étrangères dans une interview accordée à la BBC.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et sur le continent, des funérailles ont été organisées aujourd'hui à Addis Abeba pour le chef d'état-major de l'armée éthiopienne assassiné samedi par son garde du corps, un incident apparemment lié à ce que les autorités éthiopiennes ont qualifié de tentative de coup d'état contre le gouvernement d'une région du nord-ouest. La présidente Saleh Work Zewde et le premier ministre Abiy Ahmed, qui ont essuyé quelques larmes, étaient présents à cette cérémonie, retransmise en direct à la télévision ABC, proche du pouvoir, durant laquelle le cercueil contenant la dépouille du général Séaré Mekonnen a été recouvert d'un drapeau éthiopien. En République centrafricaine, l'Église catholique dresse un bilan mitigé de la situation dans le pays à l'issue de leur assemblée générale tenue le 23 juin à Bosangwa. Les évêques de Centrafrique ont dénoncé la poursuite des violences malgré la signature de l'accord du 6 février entre le gouvernement et les groupes armés. Le Bangui, la correspondance de Freeman Sepila.
Dans un document de 9 pages, les évêques de Centrafrique ont dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire du pays, malgré l'accord de paix signé en février dernier entre le gouvernement et les groupes armés. Même si les prélats notent la volonté de Bangui à restaurer la paix en redéployant l'armée nationale dans certaines régions, ils mentionnent que ces militaires sont souvent versés dans la pratique des barrières illégales et de la quête des paisibles citoyens. Le document n'a pas été tendre aux groupes armés que l'Église catholique accuse de non-respect de l'accord de paix signé avec le gouvernement et de violence sur des civils et des religieux. Le peuple est fatigué par l'hypocrisie qui caractérise la signature des différents accords qui ont eu lieu dans ce pays, ont dénoncé les évêques. L'assassinat de la religieuse franco-espagnole Inés Sancho à Nola, dans l'Ouest, est aussi évoqué, demandant que lumière soit faite sur ce crime. Les prélats ont par ailleurs mis l'accent sur l'exploitation anarchique des ressources naturelles du pays qui ne profitent pas aux populations. Ils attirent l'attention des autorités centrafricaines sur la naissance des milices proches du pouvoir et des conséquences qui pourraient en découler. Enfin, ils demandent à la communauté internationale de faire pression sur les groupes armés afin que ceux-ci respectent leurs engagements. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
En RDC, l'épreuve nationale de fin de cycle de l'école secondaire qui se tient depuis hier n'a pu être organisée à Beni. et Ocha, dans le nord-est de la RDC, où sévit l'épidémie d'Ebola. L'épidémie a déjà fait plus de 1 500 morts en 10 mois, selon le ministère de la Santé. Elie Sangwa, Jean Abeni, le docteur Patrick Kinyou.
Nous n'avons vraiment pas enregistré assez de cas dans les écoles, c'est que les reports de l'examen de ça au Grand Nord, c'est-à-dire à Béni, à Oïtia, bon, je ne pense pas que ce soit lié à Ebola, peut-être à l'insécurité et au fait que les élèves n'ont pas suivi le calendrier normal comme les autres écoles où la sécurité est assurée dans les autres provinces.
Mais où en est-on aujourd'hui avec cette épidémie?
Nous sommes tous inquiets par rapport à la lyrie embolie l'épidémie, surtout qu'elle resurface dans les zones où elle a commencé. En août, vous prenez bien la cartographie, vous êtes agent de santé de Mabalako, agent de santé de Beni, agent de santé de Mangoureguita, et même les nouvelles zones de santé comme l'agent de santé de Rampara à Bouya et à Libéré. Donc vous voyez que c'est vraiment une situation qui inquiète. Je pense qu'au plus haut niveau, surtout au niveau gouvernemental, mais aussi des partenaires du gouvernement, on pourrait prendre les mesures qui s'imposent pour que nous ne nous éternisions pas dans cette épidémie. Elle a beaucoup duré, et je crois qu'il est temps que les mesures importantes soient mises en application pour que on voit comment maîtriser cette épidémie. Sinon, ça nous inquiète aussi, pendant que nous voyons que assez de morts et assez de cas déjà enregistrés, plus de 2000 décès, c'est déjà trop.
Mais qu'est-ce qui explique justement que cette épidémie, pour cette fois, puisse durer? C'est la plus longue épidémie d'Ebola que la RDC connaît.
La grande problématique de cette épidémie au Grand Nord, c'est une zone où la population est mobile et à part cette mobilité, c'est qu'il y a un problème de l'insécurité. Donc, Ebola toujours s'est dressé à un problème chronique en sécurité dans des bureaux, c'est que la surveillance a du mal parfois à poser des actions de santé publique dans les zones insécures. Je crois par exemple la zone de santé de Mangoureguita où vous avez même du mal à accéder au contact à haut risque, même si vous pensez qu'il y a un contact à haut risque qui développe la maladie, vous avez du mal à accéder parce que les praticabilités de route, il faut marcher pendant plus de 6 heures à pied pour ceux qui sont habitués, et puis c'est des zones où les groupes armés, les groupes de défense se développent, ils utilisent de ce côté-là, et donc c'est vraiment compliqué.
Docteur Patrick Kounou, médecin et analyste de la situation d'Ebola à Béni en RDC. On termine avec la Coupe d'Afrique des Nations. Les derniers matchs de la première journée se jouent ce soir et c'est le groupe F qui entre en compétition. Dans la première rencontre, les Lions Indomptables du Cameroun feront face au Bissau Guinéen à 17h temps universel. Dans le deuxième rendez-vous, les écureuils du Bénin joueront contre les Black Stars du Ghana. Les Béninois sont optimistes et croient que leur représentant peut jouer un bon coup face aux habitués ghanéens. La mise en perspective de notre correspondant à Boïcon au Bénin, Élisée Oupatine.
Après avoir connu de bons résultats lors de sa préparation, le Bénin joue gros d'entrée contre le Ghana. Le fait marquant de ce match important pour les écureuils sera l'absence de leur maître à jouer, capitaine Stéphane Sessayon, pour cause de suspension. Mais comptant sur le collectif, l'état d'esprit et la générosité dans l'effort, les poulains de Michel Dissuet pourraient arracher leur première victoire à une CAN, même si l'adversaire en face est le grand favori. Bien que le Ghana semble supérieur sur le papier, le Bénin a quand même des arguments à faire valoir selon quelques confrères de la presse sportive béninoise.
La première raison de mon optimisme, c'est cette dernière victoire qu'on a eue face au Ghana dans le cadre des éliminatoires de la CAN de 2010, où le Bénin avait réussi à prendre les 3 points à domicile face au Black Star déjà à l'époque.
Les écureuils du Bénin peuvent compter aussi sur le collectif qui a prévalu lors des éliminatoires de cette CAN et fait un très bon match. Maintenant, il faut dire que ces écureuils-là peuvent aussi surfer sur le problème de Capitana qui a secoué un peu la tanière ghanéenne et créé la surprise à Ismaïlia.
Ils doivent toujours se baser sur leur collectif parce que c'est l'un des points forts de cette équipe dirigée par Michel Dossier. Il y a l'état d'esprit, il y a la combativité, la générosité dans l'effort. Si ces 3 ou 4 points sont respectés, je crois qu'on peut attendre à une grande équipe du Bénin face au Ghana.
Les partenaires de Steve Mounier savent désormais jouer les gros. En témoigne leur victoire 1-0 contre l'Algérie lors des...
Fin de ce journal. Merci, Oupatine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.